Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés. Nous causerons par exemple de Une histoire de cinéma de quartier de Sylvain Perret, qui est coédité par Carlotta Film et Badlands. Sylvain Perret que nous avons interviewé, tout comme Jean-Pierre Dionnet, mythique créateur et présentateur des émissions cultes Cinéma de quartier et Quartier interdit. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Mais la première partie de l'émission sera consacrée au nouveau titre de la collection Gore des Alpes, à savoir Game Over, O-V-A-I-R-E, et oui, ils aiment les jeux de mots dans la collection Gore des Alpes, Game Over de Nicolas Millier, Arvin sur ordonnance de Joël Cherouti, et Ram de Christophe Siebert, ça s'écrit H-R-A-M. Nous évoquerons également La Mâchoire de Fabien Dorémus, paru aux éditions de la librairie du Labyrinthe. Et enfin, nous parlerons de la BD Destination Tchad de Florent Cassaille, paru chez L'Armatan BD. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Virginie Robert, Philippe Battaglia et Philippe Leleu pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com et aussi sur celui des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et enfin chez tous les bons libraires. Pour parler lecture, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour diverses revues, mais dont Prime Cut, hein, revue dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut GG, bien évidemment salut à toutes les lectrices.
Mon cher Thomas, tu vas faire aujourd'hui dans le régionalisme, puisque tu vas nous parler d'un petit éditeur amiénois, toi qui résides à Amiens justement, à savoir la Librairie du Labyrinthe, édition de la Librairie du Labyrinthe, qui a sorti un livre de Fabien Dorémus qui s'appelle « La Mâchoire ».
La Mâchoire, donc le livre de Fabien Dorémus, dans lequel il met en scène de grandes figures scientifiques, dont Jacques Boucher de Perthes, qui fait la découverte en 1863 d'une mâchoire humaine dans une carrière de sable d'Abbeville. Pour cet ancien directeur des douanes passionné d'archéologie, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de recherche. Il va enfin prouver au monde que l'homme fossile existe. Dans le plus grand secret, il invite son ami le géologue anglais Joseph Prestwich à examiner la trouvaille. Mais à son arrivée, la mâchoire a disparu, poussant les deux savants dans une aventure inattendue. Avec La Mâchoire, Fabien Dorémus signe un hommage à la littérature populaire du 19e siècle, avec son lot de rebondissements, de fausses pistes, de mystères et de personnages tantôt attachants, tantôt grossiers ou farfelus, du journaliste peu scrupuleux au vétéran mal dégrossi. Aussi court qu'il est sec, La Mâchoire est aussi un roman de vulgarisation scientifique et historique. Fabien Doremus évite l'écueil de la démonstration plombante, pose son contexte à ses protagonistes principaux, définissant ainsi les motivations et les enjeux de Jacques Boucher de Perthes, éminent géologue, l'inventeur de la préhistoire, résidant alors à Abbeville. D'ailleurs, la ville y joue un rôle important car Fabien Doremus, qui en est originaire, montre aussi son attachement avec de nombreuses descriptions des rues, des lieux. En plus de savoir décrire l'ambiance de l'époque, d'être un roman à suspense et de vulgarisation scientifique, La Mâchoire reste un témoignage social de la ville d'Abbeville. Au XIXe siècle, l'auteur y dépeint la vie de l'époque, les inégalités, la condition ouvrière via les métiers de meunier ou encore du filage de coton. Fabien Doremus agence tout cela sans que la narration et le plaisir de la lecture en pâtissent, parce qu'une fois plongé dans La Mâchoire, on se révèle vite mordu, on ne le lâche pas avant la dernière page. Et donc La Mâchoire de Fabien Doremus est paru aux éditions de la librairie du Labyrinthe.
Dans la vie, il n'y a pas que des livres avec que des mots dedans. Il y a aussi des livres avec des mots dedans et des dessins. Ça s'appelle des bandes dessinées. Vous connaissez notre attachement au 9e art dans Culture Prohibée. Alors on a décidé dans cette émission bouquin de vous conseiller une BD de Florent Cassaille, Destination Tchad, parue chez L'Armatan BD. Et c'est l'ami Thomas qui nous en parle de suite.
En effet, GG Florent Cassaille, que j'avais déjà évoqué, dont j'avais plutôt déjà évoqué là, une bande dessinée, Moi Anti-Balaka, déjà parue aux éditions de L'Armatan BD, et qui évoque les conflits qui agitent la Centrafrique. Dans Destination le Tchad, après que le PK5, plus grand quartier musulman de Bangui, a été pris d'assaut le 5 décembre 2013 à l'aube par des combattants anti-Balaka, un mouvement d'autodéfense composé de chrétiens, faisant près d'une centaine de civils musulmans, la ville vit au rythme des affrontements entre la coalition Seleka à dominance musulmane, au pouvoir à Bangui, et les anti-Balaka. Assiégés par les combattants anti-Balaka et manquant presque de tout, eau courante, électricité, nourriture, les habitants du PK5 sont obligés d'évacuer. Ainsi, Zenabou, une jeune musulmane de 18 ans, sa mère Fatima, sa sœur aimée Feza ainsi que son fils Idriss décident de partir en direction du Tchad par la route. Seulement, évidemment, leur voyage ne sera pas de tout repos. Avec Destination le Tchad, Florent Cassaille creuse des thématiques déjà abordées dans Moi Anti-Balaka, les horreurs, les injustices de la guerre, ainsi que le conflit fraternel. Si le trait de Florent Cassaille peut paraître un brin naïf, il entre directement en contraste avec ce qu'il décrit. Son scénario ne s'embarrasse pas de digressions, il va droit au but, et son découpage se révèle à l'avenant. Dans un style sec, il décrit les exactions commises par les deux camps, la cruauté des militaires, la violence et les injustices subies par les civils, et la spirale de la haine. Son récit suit le périple de personnages perdus dans la jungle qui doivent échapper aux patrouilles des deux camps. Florent Cassaille rend très bien l'ambiance de la jungle et de la brousse par un dessin réaliste soutenu par des couleurs pastel. Les cases nocturnes sont très belles, la mise en scène est assez épurée et elle est perturbée par des images de massacres et d'exécutions sommaires crûment montrées. Cependant, Florent Cassaille laisse entrevoir un semblant d'espoir, un peu d'humanité dans un monde au bord du chaos, avec ces deux personnages de confessions différentes, mais qui finissent par se comprendre et s'entraider. Et donc, Destination le Tchad de Florent Cassaille, je rappelle qu'il est paru chez L'Armatan BD et il est disponible sur le site bd.armatan.fr ou directement à la librairie L'Armatan, rue des Écoles à Paris.
Après le Tchad, nous allons aller en Suisse pour une série d'ouvrages, une nouvelle série d'ouvrages, une nouvelle salve parue dans la collection Gore des Alpes, la collection Gore des Alpes dirigée par Philippe Battaglia, qui n'a de cesse de nous asperger de liquides sanglants et autres dégueulasseries depuis maintenant quelques années, mon cher Thomas.
Après les horreurs de la guerre, les horreurs de la Suisse. Parce qu'il s'en passe de drôle dans les montagnes suisses. En effet, une lamazerie, oui, un temple bouddhiste, voit son quotidien perturbé par l'arrivée d'une communauté lesbienne qui s'installe dans une ferme voisine. Inutile de dire que la cohabitation va être compliquée, surtout quand des créatures surnaturelles, ayant l'apparence de femmes nues, apparaissent et se mettent à massacrer tout ce qui a un surplus de testostérone. Dans Game Over, comme des ovaires, Nicolas Millier s'amuse beaucoup à déglinguer quelques clichés sur les hommes, les femmes, les discours prêts à penser et prédigérés, dans un roman à ne pas mettre entre les mains des adeptes de la cancel culture. Pourtant, dans Game Over, Nicolas Millier, il en cancelle du monde. Plus particulièrement les hommes qui ont les idées, et parfois les mains, mal placées, et qui ont plus tendance à penser avec leur bas-ventre qu'avec leur tête. Game Over, c'est balance ton porc à la sauce tomate. Ça tranche, écartèle, cisaille, écrase, frappe, broie, étouffe. Il faut l'avouer, avec Nicolas Millier, c'est plus de la grosse rigolade que de la grande littérature, son style s'avérant des plus désinvoltes. Seulement, il a le mérite d'aller à contre-courant du puritanisme ambiant en se moquant de tout et de tout le monde. Les hétéros, les homos, les trans, les militaires, les bouddhistes, les lesbiennes extrémistes, les machos à moto, enfin bref. Sous sa plume railleuse qui fait preuve d'un certain sens du rythme et du bon mot, tout le monde y passe, même les gosses. Sous la marade, Nicolas Millier fustige cette recherche de pureté absolue qui se propage dans les moindres recoins de la société. Ses discours extrémistes, ses impostures et ses débordements. Alors Game Over, par son impertinence, ses scènes gore et de sexe, et son refus d'obéir au dictat actuel, se montre assez jubilatoire, avec, on s'en doute, un esprit assez proche de journaux comme Feu Harakiri. Des adorateurs du bon goût, les social justice warriors et autres nouveaux moralistes, mieux vaut passer votre chemin. Quant aux autres, précipitez-vous vite sur Game Over avant que Nicolas Millier ne soit cancelled. L'impertinence de Nicolas Millier laisse la place à un style plus clinique, celui de Christophe Siebert. Après plusieurs romans d'horreur aussi glauques que nihilistes, Christophe Siebert s'est attelé à ancrer ses histoires dans un pays fictif, Merzwerk Gorod. Ashram s'inscrit dans cette veine et se situe à la frontière du roman d'horreur, de la dystopie et de l'anticipation. En 2035, une mère célibataire, opératrice de drones qui travaille à domicile, un ancien chauffeur de métro triplement pucé à l'empathie augmentée, ne se connaissent pas mais participent à la même mission, coordonnée par le mystérieux contrôle, explorer les Carpates à la recherche de cadavres, afin de les identifier et, le cas échéant, les rapatrier à Merzwerk Gorod pour qu'ils reçoivent une sépulture décente. Cette tâche fastidieuse, éprouvante, traumatisante et sous-payée les entraîne au bord de la folie. Mais c'est quand ils seront confrontés au temple que les véritables ennuis commenceront. De cette salve, Ashram s'avère pour moi le moins bon des trois romans. Cette fois, l'humour n'est pas de mise. Alors, on rigole pas vraiment beaucoup dans Ashram, hein, voire pas du tout. Et l'histoire... moi, me semble plutôt nébuleuse, surtout quand l'auteur précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu les trois autres romans situés dans cet univers pour comprendre Ashram. Moi, ça me laisse sceptique. Christophe Siebert semble plus soucieux de décrire un état totalitaire, une société inégalitaire et mortifère, que de raconter une réelle histoire. Une fois la dernière page tournée, on reste sur sa fin malgré des passages d'horreur dont certains donnent dans la démesure. Certes, la construction est ambitieuse, avec les différents points de vue à la première personne, et l'auteur expose des vies brisées par un système, met en évidence la manipulation, mais le tout manque de contexte et la finalité reste assez obscure, faisant de Ashram un exercice de style brillant, mais un peu vain. Dans un genre bien plus éthylique, Arvin sur ordonnance renoue plus avec l'esprit de la collection, avec du gore bien sûr, mais aussi de l'humour et du sexe. Pour ceux qui ne sont point œnologues comme moi, l'Arvin ou Petit Arvin est un cépage autochtone de vignes blancs originaire et cultivé dans la vallée d'Aoste en Italie, ainsi qu'en Valais en Suisse, là où bien évidemment se situe l'intrigue de ce premier roman dans la collection de Joël Cherouti, qui avait déjà publié une courte nouvelle dans le volume « Gore de mer ». Cette fois, il propose une variation du roman de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en comptant la quête de vengeance du Dr. Benoît Petit. Ce grand amateur de Petit Arvin qui traîne une vie de perdant, aux amours médiocres, est tabassé par un quatuor de teigneux. Il finit sur une chaise roulante, mais grâce aux vertus régénératrices d'une plante alpine, sa riposte va répandre tripes et boyaux aux quatre coins des Alpes. On se demande bien ce que la Petite Arvin vient faire là-dedans, mais pour ça, il faut lire le roman, vous le saurez. Ainsi résumé, Arvin sur ordonnance ne délire pas. Pourtant, le roman distille avec une certaine constance son lot d'invraisemblances typiquement gore des Alpiennes, dont cette grand-mère qui, dans sa maison de retraite, passé les 70 ans, crée sa propre drogue de synthèse et se fait aider par le distribuer par les autres pensionnaires de l'établissement. À première vue, le rapport avec la vengeance du personnage principal, qui est aussi sanglante que terrible avec ses vices administrés, avec divers instruments de façon plus ou moins raffinée, semble mince. Cependant, l'auteur sait relier les wagons entre eux dans un final aussi bien apocalyptique qu'extravagant, mais fort drôle. Surtout, un gore des Alpes ne serait pas un gore des Alpes sans une certaine inconvenance envers certaines institutions, le consensus n'entrant pas dans la ligne éditoriale. Ainsi, les politiques populistes, la police, les banquiers sont sur la liste du héros de ce roman à mi-chemin entre l'œuvre de Robert Louis Stevenson et un justicier dans la ville, mais qui est aussi doté d'un petit fond écolo. Cependant, je rappelle que les livres de la collection Gore des Alpes, pour nous les Français, sont toujours disponibles en France dans les boutiques suivantes. Metaluna Store et Hors Circuit à Paris et Prose Café Librairie à Frontignan. Ou alors, si vous êtes aventureux, vous pouvez vous aventurer sur le site goredesalpes.ch pour vous procurer ces volumes.
Si vous aimez les chiens verts et les poulpes de 12 mètres de long, si vous aimez les villes géantes détruites par les savants chauves et fous, si vous aimez les gros musclés qui soulèvent des éléphants pour rigoler, si vous aimez les traîtres félons qui empoisonnent les rois enfants pour s'emparer du trône, si vous aimez les pauvres orphelines séquestrées par des banquiers infâmes, si vous aimez les duels au couteau, au sabre, à l'épée, au pistolet, à l'arc, à la massue ou à coup de pied, si vous aimez les cosaques, les cow-boys autrichiens, les gladiateurs et les monstres japonais, si vous aimez les petits films des grands maîtres et les grands films des petits maîtres, alors soyez les bienvenus dans Cinéma de quartier.
Nous allons, une fois n'est pas coutume, aborder un livre qui parle de cinéma, mais qui parle aussi de télévision, et puis qui parle aussi d'un homme, en fait, d'un certain Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet qui est, pour tous les cinéphiles qui ont grandi, durant les années 90, 2000, qui est une vraie légende, puisque à l'époque où il était difficile de voir certains films qui étaient à l'époque en plus des films mal vus, qui étaient de la mauvaise cinéphilie, qui étaient des choses inavouables, eh bien, à cette époque-là, Jean-Pierre Dionnet a tout décloisonné. Il a passé tout ça dans une émission qui s'appelait Cinéma de quartier. Et puis après, il y a eu Quartier interdit. Tout cela est abordé dans un livre signé Sylvain Perret, un livre qui s'appelle Une histoire de cinéma de quartier. Nous sommes allés à la rencontre de Sylvain Perret, mais nous nous sommes dit également, mais pourquoi ne pas aller fouiller dans nos archives parce que la saison 1 de Culture Prohibée n'est plus disponible aujourd'hui en ligne depuis fort longtemps. On ne peut pas stocker éternellement des données sur le net. Hein. Il faut être un peu écolo dans la vie. Hein. Il fallait être là au moment où on était diffusé. Il y a maintenant une quinzaine d'années. Désolé les gars. Voilà. Et on a été donc ressortir un vieil entretien qu'on avait fait avec Jean-Pierre Dionnet. Un entretien qui à l'époque d'ailleurs on avait fait aussi avec des amis. C'était pour le fanzine Fantasticorama dont j'étais le rédacteur en chef. Et avec les amis Johannes Roger et Jérôme Vincent, on était allé place de l'Opéra dans le très beau bureau de Jean-Pierre Dionnet qui à l'époque donc travaillait à la programmation de Quartier Interdit et également de évidemment Cinéma de Quartier, cette émission culte, ces deux émissions cultes. Donc on va écouter un peu Jean-Pierre Dionnet qui nous parle de l'émission et on va l'écouter nous expliquer comment cette émission s'est créée. Alors je vous préviens, le son est un peu moins performant puisque l'enregistrement s'est déroulé à la fin de l'année 2000 et qu'à l'époque on n'avait pas du matériel aussi performant qu'aujourd'hui pour enregistrer les interviews.
Lescure avait quitté Les Enfants du Rock pour faire Canal+, et très vite quand il fait Canal, j'ai dit je vais te faire une émission de cinéma populaire et tout, etc. On déjeunait ensemble, il me dit c'est pas pour nous, il dit là on veut s'imposer comme la chaîne du cinéma, donc faut qu'on arrive à voir les gros films, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Alors j'ai dit d'accord, il m'envoie chier. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il m'envoyait pas chier. C'est 3 ans après, il m'a rappelé en disant maintenant qu'on a les gros films, on peut le faire. Donc c'était mignon. Moi j'ai fait une erreur au début de Cinéma de quartier, j'ai passé trop de péplum. Les gens réclamaient des péplums, j'ai passé péplum. Comme ils ont réclamé, j'en ai repassé plus. Et je les ai presque dégoûté du péplum. Alors je me suis dit, je vais pas faire pareil que le scène italien. Je vais en passer entre des trucs, machin. Je vais passer un scène italien, une féerie de chèque, un machin comme ça, et alterner les genres. Parce que ce qui me plaît dans Cinéma de quartier, c'est que les gens restent. C'est-à-dire que dans le passé, il y a des moments où il y a des gens qui regardaient un film, puis pas l'autre et tout. J'ai vu que depuis quelques temps, ils sont assez fidèles. Ils regardent presque tout. Donc je m'arrange pour que dans le mois, il y ait une espèce de panachage pour que les mecs disent, je risque rien. Donc si par exemple, je leur passe 3 scènes italiennes de suite, peut-être une partie des gens va dire, oh, j'en ai marre. Donc j'essaye de panacher tout ça. Alors quand vous passez 400 scènes italiennes par an, parce que n'oubliez pas que j'ai mes français où il n'y en a pas. Hein. Bon, c'est ceux qui avaient, je les ai passés. Quand vous passez 400 scènes italiennes par an. Et là, ce choix, il se fait tout seul. On dit, tiens, c'est. On a Colorado, on n'a pas Colorado, c'est Colorado. On a tel autre, etc. On dit, tiens, le noir, le blanc et le jaune, ça y est, on a la copie propre, on va le passer. Donc ça se passe un peu tout seul, un peu en automatique. J'ai envoyé des signaux de fumée à tout le monde. Et maintenant, quand les films tombent, je les passe. Cinéma Quartier, ça passe le mercredi matin, donc je ne peux pas passer de film interdit du tout.
D'accord, ok.
Donc, ce qu'on fait sur des films qui peuvent se lever, on essaie de faire lever l'interdiction de censure,
parce qu'on leur passe. Hein, ils sont le corps à
oui,
les
fouet, ça, c'est... Oui, mais c'était au début, et au début, ils ne nous surveillaient pas. Pareil. Quand le corps à les fouet est passé, il y a eu un mystère. Je crois qu'il était né au moins de 12 ans, mais on a pu le passer. Qu'on n'était pas le mercredi, on était le jeudi, au début. Quand on est arrivé le mercredi, jour des enfants, c'était fini. Alors, sur beaucoup de films, j'arrive à faire lever l'interdiction, pas surtout. Et c'est vrai que l'ayant droit, il faut qu'il se fasse chier, il faut qu'il ait une copie, il faut qu'il aille au CNC, il faut qu'il retourne pour l'interdiction de lever. Donc c'est compliqué. Quand j'ai fait Quartier Interdit, on a fait avec Alain Petit, qui donc travaille avec moi sur tout ça tout le temps, et avec Alain, on s'est dit, on a des films, on ne pourra jamais les passer dans le cinéma de quartier. Parce qu'ils sont trop violents, trop durs, trop machin, donc on pourrait avoir une émission ailleurs. Je me suis dit, on va faire Quartier Interdit. Et donc j'ai vendu l'idée de Quartier Interdit. Puis très très vite, je me suis appelé de Quartier Interdit. Ce que les gens voulaient, c'était de l'horreur, mais de l'horreur qui fonctionne. Pas spécialement des vieilleries. Que quand on passait un film résolument moderne dans sa forme, comme Six femmes pour l'assassin, ça fonctionnait. Mais quand on passait un film, même de Bava, moins fort et tout, etc., ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que, en fait, les gens voulaient de l'horreur. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant de passer tout ce qui se passe dans l'horreur actuellement au monde, quitte à aller chercher des trucs infernaux, genre Colobos ou des trucs comme ça et tout, par exemple, ou les Psycho Sisters, etc. Au mieux aller chercher ça, que d'aller chercher des vieilleries, parce qu'on va participer au cinéma qui se fait. Cinéma de c'est déjà nostalgique. Si Quartier Interdit est nostalgique aussi, on s'en sortira jamais.
Mmh. Donc, je suis nostalgique quand même. Bien. On voit le Flash Gordon, on voit des temps
de temps. Ouais, mais c'est des trucs vraiment qui peuvent cartonner pour d'autres raisons. C'est-à-dire que Flash Gordon, je pense que tout le monde a envie de voir Flash Gordon en érotique. Ouais. Donc j'essaie de. Quartier Interdit, je me dis que les gens qui vont regarder ça à 22h30, c'est pas un public comme cinéma de quartier, de nostalgique. C'est un public qui veut être surpris, avoir peur, que ça soit interdit. Moi, ce qui m'a ravi dans la première ou deuxième saison, c'est que j'ai passé des gros films d'horreur américains. Qui étaient ceux qu'il fallait passer Canal acheté avant, et puis des trucs un peu dégénérés. Et que c'est les dégénérés qui ont le mieux marché. Le plus gros score de la première année, c'était Raven, le téléfilm avec Carmen Electra et tout. Ça marchait d'enfer. Ouais. Et je me suis dit, ah, ils sont bien, parce qu'ils ont compris que c'était vraiment du cinéma dégénéré grave. Donc je me suis dit, maintenant je suis libre. Si je suis libre, j'ai bien aller chercher des directs tout vidéo hallucinants d'aller chercher les films anciens. Donc, ces films-là, que je ne pouvais pas passer dans le cinéma de quartier, ben je ne les passe pas dans le quartier interdit, ils sont entre les deux trappes. Mais la plupart du temps, il y a des bonnes raisons. Les Hammer qui sont encore interdits, c'est pas du quartier interdit, ils font plus peur à personne, simplement ils sont encore interdits. Donc, ben voilà, donc ces films-là, pour moi, c'est pas résolu, ben, c'est la vie. Hein. Quand le cinéma de quartier est né, ouais. Au départ, il y avait trop de films étrangers à Canal+, ouais. Pas assez de films français. Donc, quand j'étais voir les gens du cinéma, ils m'ont dit, écoute, si tu nous sauves la vie, si ta programmation elle est composée essentiellement de films français, plus de la moitié, vous vous en apercevez pas vous, parce qu'il y a beaucoup de coprodes qui font que ça donne l'impression d'être des Italiens, des Espagnols ou des Allemands, mais souvent c'est des Français, pour moi, légalement. Après ça, pendant un très très longtemps, j'avais droit à un non-européen. Le reste, il y a, bon, ça faisait ça ou 60% de Français. Parce que ouais. Les 40% restants, c'était de l'européen sauf un film ou deux films. Ouais. Donc quand on a un film étranger, non-européen, y compris les Américains par an, ça va vite à choisir. Hein. Bon, après je suis passé à 2, après je suis monté à 3, donc je suis resté quand même, souvent comme j'avais accès à tous les trucs Warner et tout ça et tout, je suis resté dans les trucs que je voulais absolument passer un jour ou l'autre, il y en avait tellement. Bon, ça a changé récemment, alors ça a changé récemment, c'est-à-dire que récemment j'ai eu droit à 5-6 il y a 2 ans, j'ai eu droit à 10 l'an dernier ou cette année, j'ai droit à une douzaine l'année prochaine, il y a moins d'Européens, il y a toujours autant de Français. Hein. Mais ce qui fait que là je peux y penser. Mais l'ennui, c'est que comme le reste du monde, les films, ça va vite aussi. Pour vous dire l'exemple, en 2001, puisque je travaille sur 2000-2001, je suis en train de me dire que sur l'an 2001, sur les 7-8 que je veux passer, bon, j'ai bloqué des trucs que je veux passer absolument américains, j'allais dire du gros truc féerique ou du machin ou le monde perdu où il y a une copie superbe et tout qu'on n'a jamais vu et tout. Bon, ça me laisse la place pour des non-européens, non-américains pour 2-3 films dans l'année. Alors là, je suis en train de me dire, en fin d'année, je voulais passer Zoo dans Cinéma de quartier et Matango. Je viens de me dire que je préférerais passer Baby Cart et Matango. Alors, là, je me suis dit, tiens, comme j'ai un mois de novembre, c'est marrant, je me dis, c'est mieux de mettre Baby Cart et Matango, parce qu'il y avait deux trucs japonais qui vont ensemble. Mais ça reporte Zoo d'autant, ça reporte tous les trucs de la Shaw Brothers d'autant. Moi, il y a des King Hu que je passerais bien aussi. Au rythme de 2 ou 3 par an, j'en ai... Mais c'est pas grave, parce que les Américains, par exemple, au rythme de 2 par an, j'ai passé presque tout ce que je voulais absolument passer. Bon, il me reste 3-4 que je veux passer absolument. Il y en a aussi que je suis obligé de passer, non pas obligé. Mais comme il y a des firmes qui ont des accords comme Columbia ou Warner et autres, il faut qu'on prenne Canal tout confondu, 20 films par an. Donc moi, on vient me voir, on me dit, la Fox, faut que tu prennes 4 films. Bah, dans la Fox, je vais chercher des fois des trucs vicieux parce que je fais partie de Canal. Donc je vais me dire, je vais passer tel film que je n'aurais pas passé autrement. Là, je viens de prendre Le Vol du Phénix de Aldrich, qui est un film dégénéré que j'aime bien parce qu'on ne le voit jamais. Et ce n'était pas vital pour moi, simplement ça permettait d'avoir un Fox Columbia. Idem, j'ai été chercher un film que j'aime bien, par contre, qui est L'Égyptien, qui est un péplum américain de Curtis, que j'aime beaucoup, qui est d'après un bouquin magnifique. C'était pas vital pour moi, mais je l'ai pris. Alors c'est un peu de la cuisine tout ça, c'est-à-dire que je fais pas le programme uniquement avec mes souhaits, je fais le programme avec les problèmes que ça pose. Par exemple, Canal, avant, avait beaucoup de films européens, mais pas assez. Donc moi, on me disait de prendre de l'américain. Tout d'un coup, comme ils ont des accords avec toute l'Europe, ils ont beaucoup plus d'Européens, donc je peux avoir plus d'Américains. Mais l'année suivante, ça peut changer. Moi, je fais avec ça. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas pressé. Parce que même qu'en Américain, j'ai presque fait le tour de ce qui m'intéressait. Bon, bah, quand je vais avoir l'occasion de rentrer dans le Hong Kong, dans le Japonais, dans le Mexicain, etc., bah, je vais en profiter au fur et à mesure. Bon, soyons clairs. Ce que j'ai envie de passer de non-Américain en cinéma de quartier, peut-être un ou deux Philippins dans Quartier Interdit, sympa. Du japonais dans cinéma de quartier dans quartier interdit, du hongkongais dans cinéma de quartier dans quartier interdit, parce que je pensais bien des catégories 3 quand même. Je me suis dit, j'ai regardé Untold Story 2 l'autre jour, c'est quand même très difficile parce que je pense que sur un public non averti, c'est limite. Non, parce que c'est des films troublants parce qu'ils changent de ton et qu'on sait pas si c'est comique ou pas comique, que c'est complètement c'est drôle, mais faut faire attention quand on est à la télé, faut faire attention à ce qu'on fait parce que on n'est pas en train de dire à un copain, regarde ça, c'est dégénéré, mais c'est bien. Et la personne qui va le regarder, elle n'est pas obligée de regarder la présentation, on dit attention, c'est dégénéré. Dr. Lamb, par exemple, me paraît défendable, parce que c'est un film cohérent. Untold Story 2, non. Hein? Non, non, mais moi, j'ai pas de censure au niveau de Canal, je fais ce que je veux. Donc comme je fais ce que je veux, je me sens responsable de choisir ce que je fais. L'autre jour, je regardais Trace et le Cristal, dans les trucs européens que j'aime bien. Je trouve que c'est un film qui a plein de qualités, puisque c'est un peu Art Pupil en fait avant et tout, etc. Mais ça sent un peu la pédophilie. les rapports avec la gamine, il y a des photographies et tout. Donc je me dis, moi, j'ai pas envie de le passer. Parce que c'est un film qui a un discours officiel, qui en dessous, il y a un discours qui me plaît moyen. L'autre jour, j'ai reçu une lettre d'un mec qui me dit, vous avez passé Incubus, etc. C'est bien. Mais il manque, dans la séquence de démonologie où il y a le viol par le démon, etc., il manque des plans. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il manque des plans, je crois que c'était stroboscopé dès le début. Et après, le mec dit, ouais, c'est encore la censure et tout. Et je lui ai écrit, on dit gentiment, au lieu d'écrire pauvre con, je lui ai écrit cher monsieur, je lui ai dit, écoutez, ce film-là avait disparu, il n'y a plus une copie au monde. Il restait une copie à la cinémathèque. Cette copie de la cinémathèque, on l'a fait restaurer. S'il n'y a pas de censure, c'était le seul matériel existant. Bon. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que sur quel film ça m'est arrivé ?
Faire des zombies.
Je sais plus
c'était passé. C'est si vous avez annoncé la version intégrale et la VF était la version censurée, la VOST intégrale.
Il m'est arrivé sur, par exemple, sur Giulio Questi, sur le film de Questi, le western.
Ben c'est
ce moment où on a fini le film, où on avait la copie la plus complète, sont arrivées deux séquences. Qui était pas dans la version courante italienne, pas dans la version anglaise, une où il creuse un mec pour lui prendre des pièces d'or dans le ventre, et une où il arrache la tête du mec comme ça et tout, on lui etc. Dont une qui avait jamais été montée, que Questi avait sorti comme ça, et le film allait passer dans un mois. Et je me suis dit, comme j'avais rajouté des plans, parce que moi j'ai aussi un problème, mais ça il faudrait pas trop en parler, c'est que je suis censé passer la version qui est sortie en France. Si je rajoute des plans qui sont passés en France, je devrais passer dans la censure. Donc je me suis dit, si au dernier moment je change la programmation, que je rajoute 20 minutes de massacre pour un film qui tout d'un coup va passer de 1h20 à 1h50 et tout. Et comme ces deux séquences-là n'avaient jamais été montées, je ne l'ai pas mise.
D'accord.
Donc c'est la plus. C'est, en fait, elle est plus complète que la française à l'époque, il ne faut pas l'oublier.
D'accord.
Elle est plus complète dans la VO ou dans la VF. Je ne peux pas le dire non plus. Donc soyez souple là-dessus. Soyez souple parce que en fait je triche avec la censure.
D'accord, ok.
Je triche avec la censure. Si j'essaie la censure faire, je passerai exactement ce qui est sorti en France. Donc je triche sans arrêt. Mais effectivement, ces deux séquences sont arrivées après. Je me souviens que Ben Derrien est arrivé comme un fou en me disant on a trouvé ça, Questi m'a donné ça. Bon d'abord la séquence avec Questi l'avait retrouvé chez lui et tout. C'était dégueul bif, maximum, on aurait dû du anthropophagus. Ils ouvrent le ventre du mec pour sortir des pièces d'or.
Après ces quelques mots de Jean-Pierre Dionnet, je vous invite à écouter Sylvain Perret. Alors, qui est Sylvain Perret ? Alors, vous le connaissez si vous traîner sur le web, parce que c'est le fondateur du webzine Inculte. Hein. Inculte, alors c'est le chiffre 1 et plus loin culte avec un K, K-U-L-T. Il est également rédacteur régulier de la revue Schnock et responsable éditorial chez Gaumont Vidéo depuis 2017. Et puis, il fait aussi partie de l'équipe de programmation de Panique Cinéma au Forum des Images. Il a travaillé sur plusieurs documentaires, hein, sur Michel Audiard, sur Jean-Louis Van Bell, il faut le faire quand même, sur François Gaillard. Et Une histoire de cinéma de quartier coéditée par Carlotta Film et Badlands et son premier livre. Et donc, eh bien, l'équipe de Culture Prohibée est allée à la rencontre de Sylvain Perret. Bonjour Sylvain Perret.
Bonjour.
Alors nous sommes donc avec Sylvain Perret, qui est l'auteur de Une histoire de cinéma de quartier, une coédition Badlands et Carlotta Film. Et j'ai cru comprendre, Sylvain Perret, que ce projet était en fait un vieux projet, puisque déjà sur le site Inculte, vous aviez tenté de lister la programmation des émissions de cinéma de quartier.
Eh ben c'est encore plus loin que ça en fait. Parce que, effectivement, j'ai créé un site en 2008 qui parlait de cinéma alternatif au sens très très large. Donc, c'était aussi bien du cinéma de patrimoine, du cinéma de genre, du cinéma muet, du cinéma contemporain, des films un peu atypiques et marginaux qui sortaient. Et en fait, quand j'ai créé ce site, c'était au début, pendant 3 mois, c'était sous forme de blog. Donc, c'était un truc très très primitif. Et j'ai envoyé ça à un ami qui m'a dit dans 2 jours, dans un mois, tu fermes ce truc. Bon, ça a tenu 7-8 ans et le label, on va dire, Inculte vit toujours à travers des éditions vidéo et donc ce livre. Mais en fait, j'avais créé ce blog à la base, avant que ça devienne un webzine, pour une raison très simple, c'était d'imaginer un fanzine, pas un livre, mais un fanzine, qui parlerait, que j'avais découvert, parce qu'il y avait un petit renouveau du fanzine, puis je découvrais toute cette littérature. Et je me suis dit, ah, ça serait bien de faire un fanzine sur cinéma de quartier. Et donc, effectivement, j'avais commencé à mettre des choses, en plus de news sur le cinéma et de critiques, des choses autour de cinéma de quartier. Ça me trottait déjà depuis un bout de temps. Et puis même, en fait, quand l'émission s'est arrêtée en 2007, je vais pas dire orphelin, mais il y avait des questions qui se posaient. Déjà, pourquoi ça s'arrêtait, mais est-ce que ça va reprendre de manière assez naturelle, mais surtout, mais finalement, ça existe depuis quand? Qu'est-ce qui a été diffusé dans cette émission? Quelle est l'histoire de cette émission? Et parallèlement, ma vie professionnelle a évolué, et je travaille aujourd'hui chez Gaumont depuis 7 ans maintenant. Je suis responsable éditorial chez Gaumont Vidéo, donc j'ai eu des questions aussi qui se sont posées en rapport avec le livre, puisque ça m'intéresse aussi de savoir naturellement, mais en fait pour passer un film à la télévision, tout comme pour le sortir en vidéo, il faut que deux choses soient réunies, très simples, mais qui peuvent être très compliquées, c'est trouver les droits et le matériel, régler le problème juridique et régler le problème technique. Et donc ça m'a aussi intéressé en me demandant mais comment Dionnet et ses équipes de cinéma de quartier arrivaient à avoir les meilleures copies ou même les copies tout simplement, et puis ces histoires de droits. Donc voilà, ça m'a apporté d'autres questions. C'est pour ça que cette histoire est apparue après 3 mois d'écriture intense, et puis aussi avec 20 ans, ou on va dire 15 ans de notes dans tous les coins et des débuts de listes de programmation que j'ai complétées un peu en amont.
Et comment a réagi Jean-Pierre Dionnet quand vous l'avez contacté pour lui parler de ce projet de livre sur donc l'émission culte, hein, cinéma de quartier, et puis aussi sur Quartier Interdit d'ailleurs, l'autre émission qu'animait Jean-Pierre Dionnet après et pendant Cinéma de quartier.
Voilà, et d'ailleurs au passage, petite parenthèse, il y a une troisième émission, parce que j'ai vu qu'une troisième émission avait fait son apparition après Quartier Interdit, qui est une sorte de Quartier Interdit peut-être plus large public, mais qui était placé à une heure de petite écoute. On va dire, je crois que c'était en troisième partie de soirée, donc c'est à minuit, minuit et demi, une fois par mois, tous les mardis, Jean-Pierre Dionnet aurait présenté un film d'horreur, et cette case a disparu, et je ne me souviens même pas l'avoir vue. En tout cas, elle était annoncée dans un journal interne, dans le journal mensuel de Canal+. Quand j'ai prévenu Jean-Pierre, je pense qu'il était étonné. Il savait que ça faisait longtemps que je l'interrogeais sur cinéma de quartier. J'avais pas mal de sources. Je l'ai pas trop sollicité une fois que le projet, je l'ai averti bien sûr, je ne l'ai pas trop sollicité une fois que le projet était lancé, parce que j'avais tout ce qu'il me fallait. Il m'avait fait un texte, on va dire, il m'avait fait une interview qui m'a servi à faire l'intro et à, il avait répondu à quelques questions, il m'avait donné des détails que je n'avais pas trouvé ailleurs. Et puis comme il avait beaucoup parlé à droite à gauche de l'émission, ça s'est fait, j'avais tout ce qu'il me fallait, on va dire. Il fallait juste mettre les pièces de puzzle au bon endroit. Et puis il avait déjà sorti son livre de mémoire qui s'appelle « Mémoire », dans lequel il parle de cinéma de quartier. Alors il ne consacre pas énormément de pages à cinéma de quartier, c'est assez étonnant. C'est ce qui a fait que c'est ce qui m'a motivé à le sortir. C'est-à-dire que si dans Mémoire il y avait eu 60 pages sur cinéma de quartier, je me serais dit bon ben tout est raconté là, c'est bien. Mais finalement il y avait je crois qu'une quinzaine, 12-15 pages qui m'ont servi bien sûr, mais qui m'ont aussi poussé à me dire ah ben non mais il y a autre chose qui existe. Et puis si on va entre les infos que j'ai et les infos que je peux avoir auprès des personnes qui ont collaboré avec Jean-Pierre, je peux avoir quelque chose d'assez intéressant.
D'ailleurs, le livre, hein, donc une histoire de cinéma de quartier, paru dans la collection Inculte chez Badlands et Carlotta Film, le livre met en avant aussi, Sylvain Perret, les précieux collaborateurs de Jean-Pierre Dionnet, qui sont un peu les hommes de l'ombre, que quelques cinéphiles connaissent pour d'autres activités, mais beaucoup ignore en fait leur participation à cette émission. Je veux bien sûr parler d'Alain Petit, Patrice Véry, Lucas Balbo, voire même des gens moins connus comme Julien Rousset, Yannick Vallée. Comment s'est passée votre rencontre avec tous ces interlocuteurs dont les témoignages sont présents dans le livre ?
Oui, alors moi ça m'intéressait aussi d'avoir d'autres voix, non pas que la voix de Dionnet ne me suffit pas, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir plusieurs voix, parce que en fait entre ce que dit quelqu'un qui va être interviewé au moment de l'émission, au moment de l'émission ou en période promotionnelle et après, il y a déjà une différence. Et puis les souvenirs peuvent se tromper, et puis on peut mélanger deux trois dates. Je sais notamment que il y avait une erreur sur Wikipédia. Est-ce qu'elle a été corrigée? Je ne sais pas. C'était le début de l'émission. L'émission commençait en 89 selon les sources. En fait, elle commence pas en 89, elle commence en 90. Or, c'est une information qui est reprise dans les mémoires de Jean-Pierre, parce que il a dû se fier à cette info. C'est pas important, mais ça veut dire que moi, il a fallu tout vérifier derrière, et c'est pour ça qu'aller voir les collaborateurs, ça m'a permis d'avoir des nuances, des précisions, des choses que je pensais être justes. Et qui, en fait, en vérifiant, ben non, c'est pas tout à fait ça, etc. Souvent, je mets des notes de bas de page pour expliquer que, ben, en fait, Jean-Pierre Dionnet ou telle personne parle de ça, mais en fait, il semblerait que ce soit plutôt comme ça. Et parfois, j'avais plusieurs sources pour la même histoire. Alors, ce qui était commun, on avait quand même de fortes chances que ce soit exact. Et puis après, ça pouvait être un peu entre les deux, les trois versions, etc. Et puis, des personnes, il y en a certaines que je connaissais. Je connaissais Alain Petit, je connaissais Lucas Balbo, qui m'ont donné de leur temps pour ce livre et des informations précieuses. Et il y avait aussi le fait que comme Mémoire était sorti, toutes les personnes que j'ai interviewées avaient lu le livre de Jean-Pierre, mais justement, ils trouvaient qu'il y avait quand même quelques trous et des choses. Ils étaient plus aptes à parler puisque Jean-Pierre avait donné des informations, mais pas tout, qui m'ont permis de remplir un petit peu les trous dans la raquette, on va dire, de l'histoire de cinéma de quartier.
Et il y a un truc, moi, que j'aime beaucoup dans le livre, qui transparaît à chaque page du livre. C'est un livre aussi, parce que, bon, ben voilà, on a tous grandi, enfin, en tout cas, une partie des membres de notre rédaction, nous, on a grandi avec cette émission de Jean-Pierre Dionnet. On a pu voir aussi des films qu'on pensait ne jamais voir, comme Rabbit Dogs, par exemple, de Mario Bava. Et il y a quelque chose qui transparaît dans le livre et qui transparaissait dans les présentations que faisait Jean-Pierre Dionnet, qui sont presque tout aussi cultes que les films qu'il diffusait, c'est cette notion de transmission, le rapport à la transmission. Moi, je trouve que le livre entretient un rapport à la transmission. La transmission, elle est vraiment, c'est vraiment le sujet au cœur du livre.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça m'intéressait de raconter cette histoire, de laisser une trace de cette émission. Parce qu'en fait, la télévision, c'est quand même encore un média, mais il y a la radio aussi. Où on a du mal à avoir une vue d'ensemble, une trace, etc. Je vous dis, même la date du début de l'émission, c'était assez flou. Et moi, quand j'ai commencé ma cinéphilie, c'est une émission qui m'a transmis une cinéphilie. C'est pas une émission cinéphile au premier abord. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut regarder cinéma de quartier comme beaucoup de personnes en n'étant pas cinéphile. Contrairement à Cinéma de minuit, qui a quand même une case où on s'adresse à des personnes qui sont quand même curieux et qui sont prêts à faire l'effort d'aller voir un film dans une case un peu particulière, etc. Là, les personnes qui regardent des cinémas de quartier, comme moi, tout jeune enfant, tout cas au tout début, je regardais ça un petit peu parce que c'était le flux de la chaîne de télé, on va dire, parce qu'il y avait un film qui avait l'air sympathique, etc. Et puis avec le temps, j'ai commencé, grâce aux présentations de Jean-Pierre et au choix des émissions et au choix des films, au choix des thématiques, je veux dire, au choix des films, à trouver mon compte en tant que cinéphile. Je pense que c'est une émission qui transforme transforme le spectateur ou le téléspectateur en cinéphile. Il y a très peu d'émissions comme ça télévisées en France, à mon avis. Moi, j'en vois deux, et elles ont des points communs assez marqués. C'est La Dernière Séance et Cinéma de Quartier. Et puis, quand je parle de Cinéma de Quartier, je parle de Cinéma de Quartier et de Quartier Interdit, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des émissions qu'on va suivre en n'étant pas entre cinéphiles convaincus à la base. Et c'est les meilleures émissions parce qu'elles transforment des gens, pas forcément, hein, mais elles transforment les gens, elles peuvent transformer des gens, elles peuvent planter la graine pour devenir cinéphiles, elles peuvent justement transmettre. Ou alors elles peuvent juste faire passer un bon moment devant un film, ce qui est quand même déjà une force, mais arriver à jongler les deux, c'est assez rare. Et les points communs qu'il y a entre les deux émissions, c'est que le présentateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde du cinéma ou de la télévision à la base. Eddie Mitchell, quand il est présenté à la dernière séance, c'était un personnage public, c'était un chanteur, mais il n'était pas attaché comme étant un cinéphile qui allait transmettre quelque chose. Et Jean-Pierre Dionnet, c'est pareil, il venait de la bande dessinée, bon, il avait fait un peu de télévision avant, mais pas de cette manière-là, et puis il n'était pas rattaché au cinéma. Donc c'est quelque chose peut-être qui rassurait les gens à l'époque. Et puis cette transmission, moi, elle me fascine parce que c'est toujours intéressant de se demander comment laisser une trace et comment transmettre sa passion. Parce que ce qui est beau quand on regarde un film, c'est de dire mais il faut que les gens le voient, il faut le partager, il faut que plus de personnes voient ce film parce qu'il est super bien, il est très bien, ou cet auteur, ou Mario Bava. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais on ne sait jamais par quel bout le prendre. Jean-Pierre est très fort pour ça, quand on a une conversation avec Jean-Pierre, on a une liste après de 15 livres à lire, 20 films qu'on a envie de découvrir, un auteur qu'on a envie de creuser, tel album, de tel enregistrement live, de tel chanteur à aller chiner, etc. Donc lui, il a cette force en lui. Et je ne pense pas avoir sa force, mais je me dis que si j'arrive à au moins laisser une trace plus marquée de ce qu'a fait, de ce qui a été fait à cette époque-là, bah, ça sera ma petite contribution et j'en serai assez content. Mais attention, je précise que je ne suis pas nostalgique de cette époque. Je suis très admiratif du travail qu'a fait l'émission pendant 17 ans. Vraiment, c'est assez admirable. Mais c'était quand même des contraintes. Et grâce aux contraintes qu'on a eues à une époque, on est passé à autre chose qui est plus avancée aujourd'hui, qui sont les plateformes de streaming, les DVD, les Blu-ray, les festivals. On a réévalué, on a pu voir des livres sur certains sujets qui sont passés dans l'émission, qui ont un peu complété ce qui avait été abordé dans l'émission. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même plus confortable de voir l'intégrale de Claude Sautet en Blu-ray restauré avec des heures de supplément, plutôt que de les voir un épisode par semaine en SD, même si ça avait été nettoyé, même avec la présentation de Jean-Pierre Dionnet. Donc, c'est pas un livre qui dit « c'était mieux avant ». C'était très bien avant, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a un confort dans la cinéphilie qui est qu'on a presque le double problème inverse. Le premier problème, c'est qu'on a accès à énormément de films, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que moi, quand je regardais Canal, j'avais la chance que mes parents aient Canal, parce que moi, j'étais encore relativement jeune. Et donc, il y avait 1, 2, 3, il y avait 6 chaînes. Il y avait 6 chaînes normales. Non, j'avais pas encore, il n'y avait pas encore peut-être que TPS devait arriver. Mais en tout cas, globalement, il y avait très peu de chaînes à la télévision. La vidéo, c'était des VHS, donc ça prenait de la place. Ce n'était pas un objet très sexy, ce n'était pas un objet pratique, parce qu'on n'avait que des films souvent coupés, en une seule langue, en VF principalement. Il n'y avait pas tellement de choix dès qu'on cherchait quelque chose un peu plus pointu pour le grand public non parisien, on va dire. mais aujourd'hui on a accès à énormément plus de films. Il suffit de s'abonner à une plateforme de streaming et légalement on a accès à au moins 200 films qui peuvent nous faire quand même 2 ou 3 mois complets de visionnage intensif et de découverte. Et deuxième chose qui a changé aussi, c'est que ce cinéma qui était le cinéma qui passait dans le cinéma de quartier, qui était un cinéma plutôt populaire et bis, série B ou bis, c'était le cinéma qui était marginal, c'était au début de l'émission, ce cinéma-là, les péplums, les Western Spaghetti, c'était de la sous-culture, c'était considéré comme de la sous-culture. Après, c'est rapidement devenu de la contre-culture, parce qu'il y avait quelque chose, on a commencé à évaluer ce cinéma-là et réévaluer à juste titre tous ces auteurs. Il y a Bava, mais il y a d'autres auteurs, Antonio Margheriti, des petits réalisateurs français, des petites œuvres qui sont des coups uniques dans la carrière d'un cinéaste qui arrive et qui fait un grand film à un moment. Mais aujourd'hui, ce cinéma-là est devenu le cinéma dominant, j'ai l'impression. Il est plus difficile aujourd'hui de défendre un John Ford, même un Fritz Lang, plutôt qu'un Margheriti ou un Mario Bava. Un truc qui est intéressant, c'est que Dionnet a toujours pris soin, depuis l'arrêt de l'émission, à ne plus trop, par envie je pense, à ne plus trop défendre ce cinéma-là, parce qu'il n'avait plus à le défendre, c'était fait. Par contre, il dit toujours, je prends mon bateau de pèlerin pour aller défendre les petits films américains des années 40 et le cinéma asiatique. Après l'arrêt de l'émission, il s'est consacré beaucoup au cinéma asiatique en ayant une collection DVD qui a quand même compté plus de 100 éditions, je dirais, de tête, qui s'appelait Asian Star. Il défendait du cinéma coréen, du cinéma pakistanais, du cinéma japonais, du cinéma hongkongais. Donc c'est quelque chose qui était beaucoup plus contemporain. Donc c'était quand même, il s'est pas enfermé là-dedans. Il s'est pas enfermé dans cette image de passeur d'un cinéma d'antan qui serait situé entre les années 50 et les années 80.
Ça a toujours été un peu un avant-gardiste. Quand il était rédac-chef de Metal Hurlant, il a fait. Bon, on en reparle aujourd'hui parce que ça va ressortir. Là, je crois, il avait fait Anana, qui était dirigé par sa femme, qui était le premier journal de BD féministe. Quand il arrive à la télé. Bon, il fait Les Enfants du Rock, et Sex Machine, c'est des émissions qui ont marqué quand même. Derrière, il fait là ce cinéma de quartier où il décloisonne, hein, parce que c'est vrai que vous le rappeliez, Sylvain Perret, donc l'auteur du livre Une histoire de cinéma de quartier. Il y avait certes Eddie Mitchell, mais Eddie Mitchell, qu'on adore tous, on adorait là, tous regarder la dernière séance. On a pu y découvrir Le Cauchemar de Dracula, par exemple, enfin, et puis d'autres films qu'on adorait, les Nathan Duran, tout ça, mais. Il était très branché cinéma américain. Il laissait peu de place au cinéma européen. Quand Dionnet est arrivé, lui, il a tout décloisonné. Il y avait ce qui était noble, ce qui ne l'était pas, l'avouable, l'inavouable. Et puis, il y avait tout ensemble. Et il ne faisait pas de différence. Ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau dans notre émission aussi, d'ailleurs. Il a même fait venir des gens comme Tarantino, à l'époque, qui fait partie de ces gens qui ont décloisonné tout ça. Il a fait venir Tarantino, Cronenberg, Chabrol, Harryhausen, George Lautner. Vous reproduisez d'ailleurs leur présentation dans le livre, hein, et je pense qu'ils gardent toujours cette longueur d'avance.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça transparaît aussi dans la toute dernière émission de Cinéma de Quartier, dans laquelle Dionnet ne fait pas une présentation du film, qui est un film soviétique, je crois, qui est un très très vieux conte. Il ne parle pas du film qui va passer, mais il parle plutôt, il fait le bilan de cette émission, et il explique que pour lui, ça y est, Terence Fisher et Mario Bava, c'est fait, c'est acté, il y a d'autres territoires, etc. Je trouvais ça intéressant de finir le livre dessus, en reproduisant ça, en disant que dès la fin de l'émission, il était assez lucide et il ne s'est pas enfermé. Il n'a jamais eu l'envie de devenir le porte-parole d'un seul cinéma. C'est ce qui fait sa valeur en tant que cinéphile, c'est qu'il va faire un lien entre un petit film anglais, obscur, de la Amicus, qui est une boîte concurrente de la Hammer, Hammer Film, il va faire le lien avec un film d'exploitation américain des années 2010 et un film indonésien effectivement contemporain. Enfin, c'est assez intéressant sa manière de mélanger, d'arriver à avoir de lier tout ça avec la même passion et la même j'arrive pas à percer le secret de Dionnet là-dessus. Je suis assez admiratif Et je dis, mais comment il arrive à mélanger tout ça, que ce soit limpide, et qu'on ait envie de, qu'on ait envie, après coup, après 5 minutes de conversation, de manger, de déguster tout un pan culturel, quoi. C'est assez fascinant.
Dans ce livre, il y a une préface. Alors, j'ai découvert les talents de graphiste de Clara Sebastiao. Je la connaissais en tant que critique de cinéma. Je ne savais pas du tout qu'elle avait ces talents de graphiste. Et elle illustre une préface signée Bertrand Mandicot. Alors, Bertrand Mandicot, cinéaste qu'on a déjà reçu dans cette émission et qui est un cinéaste qui, lui aussi, décloisonne le réalisateur des Garçons Sauvages, quand même, qui est un cinéaste un peu venu d'ailleurs et qui est un enfant, lui aussi, de cinéma de quartier.
Voilà, en fait, pour la préface, j'avais cherché une figure, pas forcément cinématographique au début, quelqu'un qui arriverait et qui donnerait un point de vue plus contemporain. Parce que moi, ma grande, c'est pas ma grande peur, c'est, comme je disais, je suis pas nostalgique et je me méfie de la nostalgie et je voulais pas avoir quelqu'un... qui a connu l'émission et puis qui en parle et puis qui aura un point de vue un peu nostalgique sur cette émission. Je voulais quelqu'un qui soit en activité aujourd'hui, qui a une activité aujourd'hui, donc qui soit une génération un peu plus jeune que celle de Jean-Pierre. Et j'ai essayé de chercher, voir des cinéastes, et j'en avais deux, trois qui sont venus en tête. Et le premier, c'était Bertrand Mandicot. Donc je l'ai contacté, il a accepté très rapidement de faire ça en disant bah, en plus Jean-Pierre m'a toujours considéré comme son, il m'a dit que j'étais son fils spirituel. J'ai dit bon ben voilà, c'est acté, et ça me semblait intéressant. Pour moi, la préface, c'est quelque chose qui peut ouvrir un petit peu le livre à d'autres lecteurs qui n'auraient pas forcément connu l'émission. Alors je sais que c'est un livre qui s'adresse avant tout à ceux qui ont connu l'émission, mais je pense que qui peut aussi intéresser les gens qui n'ont pas ou peu connu l'émission et qui pourraient en apprendre plus. C'est pour ça que, comme je dis, j'essaye de pas toujours être hagiographique ou quoi que ce soit et pointer les choses un peu différentes de la légende et pour donner une version de l'histoire. C'est pour ça que j'appelle ça une histoire. De cinéma de quartier. Et Mandicot m'a fait une préface qui était super. Et merci de citer Clara Sebastiao, qui est quelqu'un que je connais depuis des années, notamment pour ses écrits et puis pour son travail de cinéphile. C'est une époque où elle faisait des créations. Et elle m'avait fait une ou deux créations, je pense, sur des choses que j'avais faites comme ça pour s'amuser. Et je lui ai dit, mais écoute, je fais un livre, je peux peut-être pas te confier la couverture. Mais est-ce que ça te branche si je t'envoie un texte de Mandicot que je vais recevoir, si ça t'intéresse de faire un truc dessus, tu lis le texte et puis tu fais une créa. Bon, je la soumettrai à Bertrand Mandicot et elle me dit ah ouais, c'est super, elle avait pensé à deux ou trois trucs, on s'est arrêté sur un truc qui me semblait vraiment qui nous convenait tous les deux. Et donc j'ai transmis à Bertrand la création, il a adoré aussi, donc c'était super et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est Clara, quelqu'un qui a beaucoup de talent. J'ai déjà d'autres idées en tête de choses que j'aimerais faire dans cette collection. Donc, j'espère que ça aboutira. Et puis, je ferai appel à Clara pour qu'elle nous refasse d'autres créations. Parce que j'aime beaucoup son travail.
Bah, je vous en ai parlé parce que je ne connaissais pas cet aspect de son travail. Donc, ça m'a surpris, en fait, tout simplement.
Oui, parce que, voilà. Il faut vraiment la connaître pour savoir qu'elle fait ça. Elle fait ça dans son coin parce que ça l'amuse. Et je dis, mais non, en fait, c'est super. Et voilà.
Eh bien écoutez, Sylvain Perret, nous, on vous remercie. On rappelle que votre ouvrage, Une histoire de cinéma de quartier, est une coédition Carlotta Film et Badlands et qu'il est disponible dans toutes les bonnes échoppes, comme l'on dit.
L'amore vuol dire amar solo te. Voglio soffrire tutti, odiare, dimenticare cosa sei stata per me. Urare che venga in me tutto il dolore di questo amore. Tu
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard. Signalons un petit coup de main de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, à la technique. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magna pour l'habillage sonore de l'ensemble de cette émission. Salut les gens, à la prochaine.
Potrò più amare dopo te. Voglio morire per non soffrire ancora, perché soffrire vuol dire amare sempre te. Perché soffrire vuol dire amare sempre te. Perché soffrire vuol dire amare.